Les jardinières. Rediffusion.
Bonjour à tous et bonjour Sarah.
Bonjour Stéphanie, bonjour et bienvenue à notre spécialiste Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy.
On change de mois, mais pas de bonnes habitudes. En ce samedi 2 septembre, l'automne semble avoir pris ses quartiers dans le ciel, mais il reste tant de belles choses à faire au jardin. Nous, on aime planter, bêcher et chouchouter nos fleurs et nos légumes. Et surtout, on continue de répondre à toutes vos questions jardinage.
Jusqu'à 8h ce matin, vous pouvez profiter du savoir de notre professionnel Fabrice Rondet. Comment faire pour poser votre question? Alors, sur notre site internet, sous l'onglet émission, vous trouverez l'intitulé « Questions aux jardinières ». Vous remplissez le formulaire, vous nous l'envoyez et nous poserons la question pour vous à Fabrice Rondet. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS. À la place du numéro, vous tapez 939. À la place du message, vous écrivez jardin, J-A-R-D-I-N, un espace et puis votre question et finalement vous nous envoyez le tout. Pour expliquer directement notre problème de vive voix à Fabrice Rondet, vous nous appelez au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute.
On profite de la fraîcheur du matin entre 7h et 8h pour prendre soin de votre jardin. C'est parti pour les jardinières.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
En plus de nous réveiller le matin, le café a de nombreuses vertus pour notre jardin. La semaine dernière, on a vu que le marc de café pouvait servir d'engrais. Josué nous a écrit un petit SMS et elle nous a conseillé d'utiliser du café moulu. Alors cette fois-ci, pas comme engrais, mais afin de faire fuir les guêpes. Elle met du café moulu dans un récipient métallique qui est ensuite brûlé et posé sur un coin de table où les guêpes ont tendance à venir. Alors Fabrice, est-ce que vous connaissez cette méthode répulsif à guêpes avec du marc de café?
Alors j'en ai déjà entendu parler, mais je ne l'ai jamais vérifié. Donc vous dire si ça marche, ben, je crois volontiers cette auditrice, mais je ne peux pas personnellement vous l'affirmer.
Vous avez un petit truc, oh pardon, Sarah.
Est-ce qu'il existe d'autres méthodes pour se faire fuir ces guêpes qui nous embêtent pendant qu'on dîne sur notre terrasse?
Ben, les faire fuir difficilement, mais plutôt les attirer. Alors pour les attirer, après on peut les piéger. Donc ça c'est les méthodes peut-être qu'on pratique le plus. Donc on en trouve dans le commerce avec des sirops tout préparés qu'on a qu'à verser dans un petit piège, ou alors faire un piège maison avec une bouteille, avec le sommet de la bouteille qu'on retourne à l'envers, et puis faire une petite mixture bien sucrée qui les attire et puis qu'elles s'emprisonnent dedans. Comme ça on vérifie bien, puis ça fonctionne pas mal.
C'est vrai que cette année, les guêpes ont été très nombreuses, hein, sur les terrasses en tout cas. Donc c'est vrai que c'est toujours pratique pour l'année prochaine, parce que peut-être que maintenant c'est terminé, la saison des guêpes. En tout cas, pour l'année prochaine, on prendra toutes les petites astuces.
Après l'astuce de José, on a quand même une question qu'elle a à vous poser, Fabrice. Elle possède deux petites plantes de poivrons rouges qui sont ronds et oranges allongés en pot et qui ont donné passablement. Et peut-elle les garder pour l'année suivante, ou est-ce qu'elles sont éphémères? Et puis si elle peut les garder, que doit-elle faire pour qu'ils se portent bien?
Bon, le plus simple quand même, ce serait de les replanter chaque année. Hein. Comme ça, on a des plantes qui sont bien ramifiées, qui sont bien fortes depuis la base, qui vont porter leurs fruits vraiment très bas du sol, parce qu'autrement, ils auront tendance peut-être à s'écarter, puis la production, elle est peut-être plus aléatoire. Donc, les protéger, les sauver, c'est possible, mais il faut pas mal de soins. Mais au niveau production, rentabilité de la plante, et puis solidité de la plante, c'est mieux de repartir à zéro avec une nouvelle.
Christophe de Kourou a un voisinage qui est rempli de nombreux chats. Ceux-ci viennent régulièrement dans ses plates-bandes de fleurs ou dans son jardin potager. Ils font des trous dans la terre et laissent leurs crottes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela et faire fuir ces chats? Est-ce qu'il y a une méthode avec des produits, bien sûr, sans faire du mal aux chats?
Alors oui, il y a des méthodes, il y a des répulsifs qui existent, qu'on peut trouver en droguerie. Le problème de ces répulsifs, c'est qu'ils sont quand même assez chers par l'achat, mais aussi par la fréquence d'utilisation. Il faudra en mettre souvent, parce que dès qu'on a un peu d'humidité, des pluies, ça les lave et puis il faut en remettre. Après, on a des possibilités de mettre avec des ultrasons. Donc après, ça peut déranger des personnes, mais ça fonctionne assez bien. Tout ce qui sera justement petits animaux comme ça, fouines, tout ça, vont être dérangés. Puis après, il y a la dernière possibilité, c'est adopter soi-même un chat qui soit bien territorial, bien méchant, ou bien un chat qui va faire un petit peu le gardien de son petit secteur. Et puis effectivement, là, ben, les autres ne viendront plus.
Un gros matou.
Un gros matou, bien
sûr. Qui défend son territoire.
Ou un chien, voilà. Plutôt, non ? Entre chien et chat.
Voilà, un petit chien.
On discutait avec Fabrice avant l'émission, et c'est vrai que je lui ai dit que depuis que j'avais un chien, il n'y a plus de chat dans mon jardin.
On peut le vérifier à toutes les fois, ça.
Ouais. C'est vrai, j'allais vous poser la question par rapport aux autres petits animaux qui viennent faire leurs besoins sur les terrasses, comme les hérissons, il y a même les renards et tout, donc c'est un petit peu le même système de répulsif, enfin on va dire le système d'ultrasons, ça marche également sur eux.
Ça marche pas mal, bien sûr. Mais après, on a des animaux, typiquement comme le hérisson plutôt, qui sont des petits animaux qui sont intéressants pour notre jardin parce qu'ils vont nous débarrasser d'une vermine. Après, effectivement, les renards, en général, ils sont de passage, ils vont plutôt s'attaquer à des poubelles qu'on laisserait traîner ou des trucs comme ça. Donc si on maintient un peu la propreté, ça ira. Mais après, c'est vrai qu'au niveau des fouines, des martres, tous ces trucs-là qui font des crottes sur les dalles, tout ça, ça c'est plus embêtant. Ouais.
Merci Fabrice Rondet et n'hésitez pas à bénéficier de tous ces conseils. Pour ce faire, il suffit de prendre votre téléphone, vous nous envoyez un SMS au 939, vous tapez d'abord en début de message le mot jardin, vous laissez un espace et puis votre question. Et sinon, vous pouvez aussi nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute.
Et puis nous avons reçu une question par formulaire internet. Peut-on garder un pot de lavande comme une plante d'appartement ? Est-ce que la lavande vit bien à l'intérieur, Fabrice ?
Ben, la lavande, c'est quand même une plante d'extérieur. Donc à l'intérieur, honnêtement, j'ai jamais... Je ne connais pas quelqu'un qui l'ait déjà fait, mais je pense que difficilement, parce que c'est une plante qui a besoin quand même d'un petit repos hivernal. Donc à partir de là, elle va se mettre en dormance un peu à partir de la saison d'octobre-novembre pour se réveiller sur le début du printemps. Donc je pense que de vouloir la conserver en hiver aurait plutôt tendance à perturber un petit peu le développement de cette plante correctement. Donc je serais plutôt pour qu'on la mette sur une tablette d'œuf nette, protégée pour pas qu'elle gèle au niveau du pot, ou bien sur un balcon, et puis après en reprofiter de nouveau pendant la belle saison.
Je profite de rebondir peut-être sur la lavande. Comme répulsif pour insectes, est-ce que ça marche ou pas du tout ?
Si, alors là, on y attribue des vertus par rapport à des insectes comme les moustiques, des choses comme ça, oui.
Et si on la met en extérieur, quelles précautions il faut prendre ? Si on la met sur une petite terrasse ou comme ça ?
Alors, le problème des plantes en pot, en fait, c'est les gelées. Parce que quand on a une plante qui est plantée en pleine terre, on a un gel qui va descendre. Donc, s'il ne fait pas très froid, on peut avoir un gel qui descend à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 cm. Donc, on a toujours, en dessous de ces moins 5 cm, une racine qui est protégée. Tandis que dans un pot... étant hors sol, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le froid qui attaque sur tous les côtés du pot. Donc on peut avoir ces moins 5 cm qui pénètrent de chaque côté du pot, dessus aussi. Donc si on a un pot qui n'est pas très important, on peut rapidement avoir tout le pot qui gèle. Et là, si on a toute la racine qui gèle pendant une longue période, on pourra avoir une plante du coup qui meurt au printemps.
Merci Fabrice pour toutes vos explications. On va écouter quelques petites notes de musique, mais avant Sarah, rappelez-nous encore une fois comment faire pour poser votre question à Fabrice ce matin.
Vous pouvez le faire par SMS au 939, vous tapez le mot jardin, un espace et votre question. Vous pouvez aussi nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. On attend vos appels.
7h, 8h, les jardinières.
Claude Alain de Cressier nous demande comment combattre efficacement l'oxyalis. Ce sont des faux trèfles avec petites fleurs jaunes dans sa pelouse de gazon.
Alors, l'oxalis, c'est une plante qui est peut-être un peu plus résistante que d'autres mauvaises herbes. Le problème, c'est tout simplement d'utiliser un bon herbicide sélectif pour appliquer sur cette plante dans le gazon. Et le problème qu'il y a peut-être, c'est que certains produits ne sont pas assez forts dans le commerce au niveau des amateurs pour pouvoir en venir à bout. Comme nous, professionnels, en général, on utilise des produits un peu plus ciblés, qui ne sont pas forcément plus forts, plus dangereux pour la nature, mais tout simplement plus ciblés. Personnellement, moi, j'utilise deux produits pour avoir un plus large spectre d'efficacité sur toutes les plantes, et du coup, on arrive à venir à bout. Donc peut-être de s'approcher d'un professionnel qui va lui dire « bon, avec ça, je peux couvrir cette plante ou non ».
Ce sont des produits plutôt naturels ou quand même assez agressifs ?
Non, si on veut travailler à ce niveau-là pour nettoyer un gazon, on doit utiliser quand même des produits quand même issus de la chimie. On ne peut pas avoir des effets percutants avec des produits naturels.
Donc effectivement, c'est peut-être mieux de s'approcher d'un professionnel dans
mais
ce
oui.
cas-là.
Oui, comme ça on cible exactement ce qu'on veut détruire. Oui.
On a reçu un SMS d'une personne qui nous demande « J'ai trois plants de tomates, tomates cerises sur son balcon d'environ 4 cm de diamètre, une trentaine de petites tomates, mais elles ne deviennent pas rouges. » Fabrice, ce phénomène, vous le connaissez ?
Oui, on en a entendu pas mal parler cette année, notamment sur les réseaux sociaux aussi. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a un problème de maturité qui est un petit peu plus long que, apparemment que les autres années. Mais il faut juste laisser le temps au temps et ces tomates viendront à maturité. Donc, moi, chez moi, j'en ai aussi et là, elles commencent de bien mûrir, mais gentiment, mais elles deviennent toutes rouges au final.
Il n'y a pas besoin forcément de les stimuler un petit peu pour que ça prenne. Il faut laisser le temps au temps.
Oui, exactement. Ouais. Après, certaines personnes, des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils cueillent des grappes, mais je ne sais pas s'il faut vraiment le faire. Et puis, ils les mettent, par exemple, sur un papier journal comme ça, puis ils les laissent mûrir devant une fenêtre. Mais là, on a encore tout septembre quand même qui devrait nous apporter des journées assez longues au niveau ensoleillement. Et par la force des choses, on arrivera à mûrir tout ça.
Marie-Louise de Basse-Cour nous demande « En automne, faut-il couper les poireaux à mi-hauteur pour leur permettre de grossir ?»
Alors ça, on le fait au moment du repiquage, on peut le faire en été, on peut le faire un petit coup en automne et effectivement après on chope des plants plus trapus, plus forts. Et puis pas forcément trop sévèrement, mais juste les pointes des feuilles qui recourbent, qui retombent pour avoir un plant plus dressé, oui.
Et justement, on a encore pas mal de légumes dans les jardins potagers. Est-ce que vous avez des conseils pour la saison, Fabrice ?
Ben, c'est toujours agréable d'aller dans son jardin potager quand il est bien propre, donc on va toujours le poursuivre de le nettoyer au niveau des mauvaises herbes. Après, suivre les récoltes, enlever ce qu'il y a, puis pas faire attention de tomber, ouais, il fait un peu mauvais, il pleut, on va pas dans le jardin, puis louper peut-être ce qui est bon à prendre maintenant. Après, on va commencer aussi peut-être pour refaire des petits plantons sous des petites serres, des petites couches pour mettre des salades, par exemple, pour l'automne, l'arrière-saison. On va commencer certaines choses comme des doucettes, des choses comme ça aussi à mettre en place. Et puis préparer éventuellement 2-3 cultures pour l'hiver. Et puis on arrivera au bout de la saison.
Pascal a acheté un olivier d'environ 1,70 m. Il est actuellement dehors sur la terrasse. Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour qu'il passe l'hiver en toute tranquillité ? Est-ce qu'elle peut le garder dans son appartement ?
Alors, dans l'appartement, je dirais un peu comme avant pour la lavande, je dirais non. Je le mettrais plutôt dans une pièce un petit peu tempérée, autour de 18-20 degrés, bien lumineuse. Il faut quand même qu'il y ait un petit repos végétatif. Donc, il faudra contrôler l'arrosage pour pas que la plante elle soit détrempée au niveau de la motte. L'essayer ressuyer donc cette motte en 2 arrosages. Donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir dans un sous-sol avec une lumière, un garage ou bien un hall, quelque chose comme ça. Et puis, pouvoir la ressortir au printemps. Après, je sais qu'il y a aussi des personnes qu'on peut les laisser passer l'hiver dehors, puis voir redémarrer la plante. Mais là, il faut faire attention avec une protection hivernale, comme on a dit avant, au niveau du pot. Au niveau de la porte aérienne, peut-être aussi, si on a un petit peu peur d'avoir un gel, bien suivre les températures, regarder ça à cause du gel tardif qu'on peut avoir comme on a eu cette année au printemps. Et puis surtout les mettre dans des endroits qui sont protégés d'un courant froid comme la bise. Et puis ça devrait le faire.
Si vous aussi, comme Pascal, vous voulez poser une question à Fabrice, jusqu'à 8 heures, eh bien, il y a plusieurs moyens, Sarah.
Le premier, c'est par SMS. Vous tapez le 939 dans la place du numéro et ensuite dans la place du message, vous tapez d'abord jardin, un espace et votre message. Et n'ayez pas peur, même si vous avez la voix du matin, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20, et vous pouvez discuter directement avec Fabrice Rondet.
Et bien oui, la voix du matin, elle ne nous fait absolument pas peur à nous. Il est 7h26. On va faire une petite pause musicale suivie de quelques nouvelles du ciel, on l'espère, qu'il ne sera pas trop frais, quoique. Et puis des nouvelles de la route également. À tout de suite.
7h, 8h. Les jardinières.
Les jardinières sont de retour. Il vous reste une petite demi-heure pour profiter des conseils de Fabrice Rondet, paysagiste à Porrentruy.
Vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20. C'est le meilleur moyen pour discuter directement de votre problème avec Fabrice Rondet. Mais si vous êtes un peu timide, vous pouvez bien sûr nous envoyer un SMS au 939. Vous tapez le mot jardin, vous laissez un espace et vous écrivez votre message. Sinon, il y a aussi le formulaire internet que vous retrouvez sur nos sites internet.
On a Roger Bernard de Lignières, Fabrice, qui nous pose une question orchidée. Son orchidée ne fait plus de fleurs ni de bourgeons depuis plus de 4 mois. Est-ce qu'il y a encore un espoir pour cette orchidée ?
Alors, il y a quelques petits soins qu'il ne faut pas louper et puis ça devrait se remettre à fleurir. Donc, elle se repose probablement. Elle a peut-être un petit peu un problème de carence nutritive. Donc, je pense que cette personne connaît les orchidées. Je pense aussi que... elle apporte de l'engrais, donc ce qui serait bien, c'est d'apporter de l'engrais à peu près régulièrement durant la saison de floraison, d'une façon un peu plus intensive qu'en période de repos hivernale. Donc après, on a un petit bassinage qu'il faudrait faire une fois toutes les semaines, voire les deux semaines, pour que ça se passe bien au niveau des racines. On a une vaporisation si on a l'air qui est un peu sec. Il y a l'exposition à faire attention aussi. Tout ça est formulé sur une petite étiquette quand il a acheté cette plante. Et puis normalement, cette plante, une fois qu'elle aura réaccumulé les réserves nécessaires pour refaire une floraison, elle devrait redévelopper ses fleurs. Donc peut-être juste contrôler au niveau des engrais, d'acheter un engrais spécial pour orchidées, pour qu'elle puisse reprendre le dessus.
Il y a des engrais spéciaux vraiment exclusivement pour orchidées.
Oui.
Oui. Fleurs tropicales, oui, c'est vrai que c'est des questions qu'on a assez régulièrement, les orchidées, donc tout le temps avec un petit coup d'engrais, ça peut les faire reprendre et puis...
Voilà, elles vont refaire des réserves, elles auront suffisamment d'énergie pour faire plus que simplement tenir leurs feuilles ou refaire des nouvelles feuilles, mais il faut un petit plus pour pouvoir démarrer une floraison.
Christelle, la course à Courgenay, nous demande, elle a une plante, un figuier, et quel emplacement elle peut utiliser pour son figuier à Courgenay?
Alors, ce qu'il faudrait utiliser comme placement, c'est un endroit bien ensoleillé, peut-être pas en contact direct derrière une fenêtre plein sud, parce qu'on pourra avoir des brûlures. Éviter aussi un endroit qui soit dans les courants d'air. Donc, à partir du moment donné où c'est qu'on a une pièce bien éclairée, à l'abri des courants d'air, si c'est un figuier avec des feuilles vertes, ça devrait bien se passer. Et puis, si c'est un figuier avec des feuilles qui sont panachées, soit dans les jaunes, soit un peu plus claires, là, faire attention un peu plus à l'exposition, la sortir de l'ombre pour que le capital soleil soit là, pour que cette plante ne perde pas ses feuilles. Si la plante perd ses feuilles, en fait, c'est parce qu'elle n'a pas assez de luminosité.
Au niveau du type de terrain, est-ce que si le terrain est en pente ou bien est plutôt plat, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur ce figuier?
Ah, c'est un figuier d'extérieur que vous parliez? Ou bien un figuier d'intérieur? Parce qu'on a les figuiers d'intérieur puis les figuiers carica pour les petits fruits d'extérieur.
Là, alors, c'est pas précisé.
Je pense que c'est alors, plutôt extérieur.
Alors, si c'est un figuier d'extérieur, ce qu'il faut, là, ben, c'est une exposition plein sud. Et puis, en fait, pente ou plat, c'est égal, ça. Ce qu'il faut faire, juste attention, de nouveau, d'une façon très importante, c'est par rapport au gel. Parce qu'on a une plante au niveau du gel qui pourrait passer une saison si on n'a pas un gel trop froid, trop long. Et puis, par contre, comme cette année, il pourrait mourir. Enfin, il va certainement mourir. Mais après, par rapport à ça, c'est surtout le froid qui va poser problème que la nature du terrain, s'il en pente ou pas. Après, le terrain, il faudrait que ce soit un terrain qui soit assez léger, sablonneux, et puis la plante, elle va se développer facilement. Ouais. On peut avoir des fruits qui viennent à maturité, qu'on peut consommer après.
Et justement, ben voilà, ces petits fruits, on a aussi des petits mandariniers, des petits citronniers. Est-ce que c'est dans la même famille que le figuier ?
C'est pas du tout la même famille, non. Mais ce qu'il y a, c'est que les protections hivernales sont les mêmes. Peut-être plus importantes encore pour tout ce qui est oranger, citronnier, kumquat, toutes ces petites choses-là. Ceux-là, il faut absolument les rentrer pendant la période hivernale. Mmh. Parce que eux, dehors, on n'imagine même pas les laisser passer l'hiver. Le figuier, ça pourrait être encore possible si on est dans une altitude assez basse, comme 400-450. Ou plus bas, mais à partir de 500-550, il faut commencer à être vigilant au coup de froid, à retardement, au départ de la végétation au printemps.
Nous avons un appel de Jean-Pierre de Seignelégy qui a une question pour vous, Fabrice.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Bonjour.
On écoute la question.
J'ai une clématite à Seignelégy, de haut. Alors, il faudrait la couper ou bien pas?
Bah écoutez, vous pouvez là un petit peu la... Pardon. Allez-y. Allez-y seulement, si vous n'aviez pas terminé la question. Je m'excuse.
Bon, j'ai une clématite dehors.
Oui.
Pour libérer, pour la couper, oui ou non, au fond?
Alors écoutez, moi ce que je vous dirais, c'est peut-être pas de la tailler tout de suite maintenant au fond, ce qui est peut-être plus important. Les clématites en général, on protège le pied. Aussi bien pendant la belle saison de l'ensoleillement direct, on met une tuile ou quelque chose comme ça, et puis peut-être en hiver, protéger aussi avec de la paille pour pas qu'elle gèle. Après, ce qu'on peut faire, c'est la laisser passer l'hiver comme ça et la tailler après l'hiver, pour conserver tout ce qui est bois vert qui va redémarrer tout de suite, comme ça vous ne perdrez pas trop de hauteur du fait que c'est une plante grimpante. Et puis après, supprimer toutes les parties qui sont sèches ou qui ont gelé. Donc comme ça, vous allez pouvoir couvrir une surface plus importante assez rapidement. Ce que vous pouvez couper maintenant, c'est ce qui vous dérange, qui pousserait à la mauvaise place, qui pourrait vous embêter, ou elle se développerait comme vous ne le souhaiteriez pas.
Oui, mais elle est toute sèche. Elle est sèche des bouts.
Alors, bon, les parties sèches, vous pouvez les supprimer, ça ne me dérangera en rien. Vous pouvez revenir jusqu'aux parties vertes, et puis elles seront d'autant plus belles à regarder. Mais les parties saines, laissez-les passer l'hiver, comme ça vous aurez à couper faire une taille de nettoyage d'entretien, en fait.
Oui, il faudrait y mettre de la paille.
Protéger le pied, oui. Oui, parce que vous risquez d'avoir aux franches montagnes peut-être des froids plus importants. C'est la première année que vous l'avez ou bien vous l'avez depuis
ça? Oui, je l'ai juste. Je l'ai acheté, puis je me suis déjà planté. Puis après, il y a venu ce froid, comme ça se gèle. Et puis. Là, je l'ai aussi, hein.
Donc vous l'avez planté au printemps?
Oui, mais beaucoup avant, hein.
Donc, protéger le pied, mettez-la en situation plutôt sud, et puis comme ça, vous aurez déjà plus de facilité à la faire se développer correctement d'année en année. Il aura moins de sensibilité par rapport à ces courants d'air froid, si vous en avez, plutôt que de la mettre en situation un peu exposée à tout ça. Bien la protéger.
Ouais,
tout ça.
Je pourrais la boucher ou bien?
Avec une toile d'hivernage, vous pouvez la protéger, oui. Pas avec un plastique où c'est qu'il y a une condensation, où c'est que ça pourrait geler dessous, mais plutôt avec une toile d'hivernage que vous pouvez trouver dans des surfaces qui vendent ce genre de produits pour l'horticulture.
Merci Jean-Pierre pour votre question, en tout cas ce matin. Merci d'avoir appelé.
Merci beaucoup.
Belle journée.
Bonne journée, au revoir monsieur.
Si vous aussi, comme Jean-Pierre, vous voulez poser votre question en direct à Fabrice, eh bien, vous nous appelez. Sarah, comment est-ce qu'on peut faire ? Sarah est peut-être au téléphone, donc je vais vous le rappeler, 0901 70 20 20. C'est le numéro à composer pour poser votre question à Fabrice. Il y a aussi le SMS. Au 939, vous écrivez le mot « jardin », un espace suivi de votre question. C'est tout facile. Fabrice, on avait Jean-Pierre qui était aux Franches-Montagnes. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre le climat des Franches-Montagnes et le climat de plaine pour faire pousser justement certains arbres ? Est-ce que les gens qui habitent en hauteur doivent finalement se méfier de ce qu'ils achètent pour réussir une floraison ou bien de plantes ou de légumes? Est-ce qu'il y a une grande différence?
Alors oui, on a des variétés qui seront peut-être plus difficiles à se faire développer sur les franches qu'ici en bas. On a quand même quelques centaines de mètres, donc ces centaines de mètres peuvent poser un problème pour certaines variétés. Mais après, nous ici en bas, on n'est pas plus protégés, par exemple, par rapport à ces gels tardifs qu'on a régulièrement ces dernières années. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut faire attention, c'est suivre un petit peu la météo par rapport à des variétés, si on prend des risques sur les choix des variétés, par rapport aussi au démarrage de la saison. Mais ça, on ne peut pas faire grand-chose, parce qu'on a vu cette année avec les érables du Japon, tout se passait bien, et puis on a eu ce coup de froid tardif, et puis on a eu du sec qui s'est mis en place sur des parties de plantes, ou sur les jeunes plantations, du fait qu'elles n'étaient pas encore bien acclimatées, qu'elles n'étaient encore pas bien installées, d'une façon plus sévère, voire jusqu'à la perte de certaines plantes. Mais si on se documente correctement au départ, on peut avoir quand même un grand choix de couleurs, de variétés au niveau des plantes, aussi bien aux Franches-Montagne qu'ici en pleine.
Merci Fabrice. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne.
Madeleine de Porrentruy.
Bonjour Madeleine.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'aurais une question. Est-ce qu'on peut maintenant tailler des lauriers ? Nos locataires sont partis et puis ils n'ont pas entretenu les alentours et j'aimerais savoir si on peut, on nous a dit des fois en automne, des fois au printemps, il ne faut pas qu'ils fassent trop sec après les avoir taillés, qu'est-ce qu'il en est ?
Alors en fait, c'est un problème de cicatrisation. C'est vrai qu'on essaye de pas tailler pendant les heures très chaudes, donc pendant la période estivale, pour un problème de cicatrisation et puis de pas fatiguer les plantes. Donc, mais maintenant, du fait qu'on est sorti de cette période chaude et puis qu'on aura une deuxième pousse dans l'année, on a deux saisons, deux parties de l'année où c'est que ça pousse bien, c'est sur mai-juin et puis sur septembre. Donc, on peut tout à fait envisager de tailler ses lauriers, d'avoir une bonne réaction et puis de préparer comme ça pour le printemps prochain, une belle floraison de ces plantes.
Merci. D'accord, je vous remercie beaucoup.
Merci pour votre question.
Bonne journée.
Bonne journée. Et vos questions, vous pouvez les poser par téléphone ou par SMS jusqu'à 8h.
D'ailleurs, justement, un autre appel.
Bonjour.
Oui, bonjour. Pascal de Marais.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
J'ai un problème, j'ai repris, pendant 4 ans, il y avait un jardin potager qui n'avait pas été fait. Il y avait beaucoup de liserons et c'était traité par un paysagiste de cours l'année passée. Cette année, j'ai pu faire du potager, mais j'ai mis des affruitiers, des petits affruitiers et puis du copeau et j'ai de nouveau beaucoup de liserons.
Alors le liseron, c'est un gros problème parce que le liseron... On dit qu'une plante de liseron qui est assez bien installée peut avoir une racine qui peut aller jusqu'à 1 mètre de longueur. Donc, ce liseron que vous avez, il est quand vous parlez dans le potager, c'est dans un jardin qui est enherbé ou bien vraiment dans le jardin potager où c'est que vous cultivez des légumes?
Où je cultive des légumes. Parce qu'avant, pendant 4 ans, il n'a pas été entretenu. Et puis moi, j'ai fait traiter par un paysagiste. Et puis l'année passée, puis cette année, j'ai fait du potager. Oui. Et puis ça repousse sans arrêt, le liseron.
Et ça repousse en quantité plus importante qu'avant, parce que vous avez passé motoculteur?
Oui.
Oui. Alors le problème qu'il y a, c'est que peut-être que le traitement n'a pas fonctionné peut-être d'une façon assez forte. Et puis le problème qu'il y a, c'est que si vous prenez une racine, comme on disait avant, d'un liseron qui est assez bien développé, et puis que vous le coupez en plusieurs bouts, si on imagine ce motoculteur qui a mouliné cette terre, puis qui a fait pas mal de petits segments, vous allez avoir à chaque fois une nouvelle plante qui va redémarrer à chacun de ces segments. Donc moi, ce que je vous conseillerais peut-être, si vous travaillez avec un herbicide total, ce serait de laisser pousser cette partie aérienne du liseron le plus long possible. Ça sera pas beau à regarder du tout au niveau esthétique, mais plus vous avez une longueur aérienne, plus vous allez véhiculer du produit tout au long de la racine. Tandis que si vous désherbez un petit peu tout ça, puis que vous avez que 10, 15, 20 cm de longueur de tige aérienne, et puis que vous voulez détruire une longue racine, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un coup de frein sur la végétation et ça va redémarrer assez rapidement derrière. Donc laissez pousser ce liseron sur les semaines à venir. J'espère que vous n'avez plus de légumes derrière, ce sera plus facile à faire. Et puis après, vous utilisez un produit, un herbicide total, et puis vous faites un traitement, et puis là, vous devriez avoir un résultat assez percutant.
Merci pour votre question.
Un herbicide contre le liseron?
Alors, on a des herbicides totaux qui peuvent fonctionner, puis après, on a des herbicides sélectifs qui sont contre le liseron. Et puis là, vous allez mettre grosso modo une noisette, c'est comme une mousse à raser, une noisette de ce produit sur des feuilles. Ils vont vous marquer sur l'emballage, sur un tiers du feuillage ou comme ça quelque chose. Mais plus vous couvrez de feuilles, plus vous aurez un résultat qui sera probant.
Et puis je pourrais quand même faire du jardinage l'année prochaine si je fais ce traitement.
Oui, vous pouvez faire, ouais. Il n'y a pas de problème.
D'accord.
Parce que c'est des herbicides. Normalement, maintenant, on vend des herbicides qui sont non résiduaires, donc qui ne seront pas stockés dans les sols. Hein. Donc, il faut vraiment quand même travailler avec des produits corrects et puis pas aller acheter n'importe quoi, n'importe où. Donc, en faisant comme ça, l'année prochaine, vous pouvez cultiver et vous n'aurez pas de soucis sur des fruits qui seront pollués ou Dieu sait quoi.
Merci beaucoup
d'accord,
de nous avoir appelé.
Il dit qu'il fallait attendre une année pour après d'avoir traité.
Si vous utilisez un produit qu'on a le droit de vendre ici, non.
Ah, d'accord.
Ouais.
Ce que je vous propose, c'est que vous essayez d'appliquer tous les conseils de Fabrice Rondet. Et après, vous pourrez nous rappeler pour, justement, si vous avez d'autres questions ou bien pour nous dire comment vos liserons. Ça va pour vous?
D'accord, bonjour. Merci infiniment.
Merci, bonne journée.
Bon week-end.
À vous aussi, monsieur.
Bonne journée. On va prendre une petite respiration musicale avec Martine Solveig et Dragonette. On vous retrouve dans quelques minutes. N'oubliez pas que jusqu'à 8h, vous pouvez encore poser vos questions à Fabrice.
Les jardinières. Sarah et Stéphanie.
Nous avons un SMS de Maddy de la Chaux-de-Fonds qui nous demande est-ce que c'est possible de garder son laurier à l'intérieur cet hiver ?
Donc oui, c'est possible. Donc, mais de nouveau là, je ferai comme on a parlé tout à l'heure pour un olivier. Je le mettrai plutôt dans un endroit quand même pas un appartement, c'est qui ferait trop chaud, trop sec, mais plutôt dans un garage ou un hall ou une pièce en sous-sol bien éclairée, en laissant ressuyer entre deux arrosages, arroser régulièrement autour des 18-20 degrés. Et ce laurier, comme ça, il se repose un petit peu. Il va redémarrer la saison prochaine et puis nous préparer une jolie floraison pour tout l'été.
Donc, nous sommes début septembre. On voit que les jours commencent un petit peu à se raccourcir.
Malheureusement.
Malheureusement, l'été va bientôt tirer sa révérence. Fabrice, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous conseillez pour le jardin en cette période, pour le gazon, pour les fleurs, pour les plantes? Est-ce que vous avez des petits conseils généraux comme ça pour donner à nos auditeurs en cette fin
les de... travaux que l'on doit faire du mois de septembre?
Voilà.
Alors là, on a encore beaucoup de boulot devant nous. On a la taille, comme on a vu avec cette auditrice tout à l'heure. On a les gazons, on peut encore semer, faire des retouches de gazon si on a dû modifier quelque chose. On a encore les possibilités de scarifier, d'apporter les fumures d'automne pour le gazon, pour préparer un joli gazon pour la saison prochaine. On a aussi à être vigilant peut-être encore sur certains problèmes qu'on pourrait avoir sur des végétaux avec des maladies ou des parasites. On a certaines cueillettes de fruits, on a le jardin potager avec les légumes, on a repensé peut-être un petit coin aménagé pour leur dynamiser, apporter des couleurs au niveau de nouvelles plantations. Il y a vraiment un paquet de travail qu'on peut faire sur le mois de septembre. Là, il n'y a pas de quoi chômer.
Nous avons Maria de Fleurier qui a déjà un hortensia dans son jardin et elle aimerait en avoir d'autres. On lui a dit qu'en faisant une bouture de son hortensia, elle n'avait pas besoin d'en racheter. Alors comment elle peut faire comment elle peut bouturer son hortensia elle-même?
Alors pour bouturer une plante, ce qu'il faut faire, c'est prélever une partie de tige juste sous un nœud. Couper franchement avec un couteau qui coupe très bien. Donc un nœud, c'est le point où c'est que par les feuilles. Donc faire une petite coupe en biais. Et puis couper les feuilles, les supprimer du bas. Une longueur de tige d'environ 20 cm qu'on peut prélever. Et puis la partie aérienne, on réduit un peu le feuillage. On remet ça dans un terreau frais, humide. Et puis on devrait voir un enracinement se mettre en place.
La première émission des jardinières du mois de septembre touche à sa fin. Fabrice, merci beaucoup d'être venu ce matin et puis d'avoir donné tous vos conseils et répondu à toutes les questions. Les jardinières reviennent samedi prochain de 7h à 8h.
Et dès à présent, vous pouvez nous envoyer votre question pour samedi prochain depuis le formulaire internet ou par SMS au 939 en débutant votre message par le mot jardin et en laissant un espace avant votre question. Bon week-end à tous
bon
et
week-end.
À la semaine prochaine.
Au revoir. Week-end, au revoir.
7h, 8h, les jardinières.